avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 22 mars 2024. Le Canada devrait interdire le marketing portant sur la malbouffe partout où les enfants peuvent y être exposés. C'est l'une des principales conclusions d'une étude menée auprès d'une cinquantaine de spécialistes en nutrition à travers le Canada. L'étude réalisée dans le cadre d'un programme de recherche financé par les Instituts de recherche en santé du Canada recommande également un meilleur financement pour les programmes alimentaires scolaires, l'imposition de limites sur le sel, le sucre et les gras saturés utilisés dans la restauration et les aliments pré-emballés, ainsi que la mise en place d'une taxe sur les boissons sucrées. Des actions politiques audacieuses, globales et concertées seront nécessaires si on souhaite créer des environnements alimentaires sains pour toutes et tous et faire de véritables progrès dans la lutte contre les maladies liées à l'alimentation telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et de nombreux types de cancers, conclut l'étude. La Société historique de Québec organise son cinquième événement printemps. Depuis 2019, Saint-Sacrement, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Saint-Sauveur ont tous eu droit à leur édition du printemps. En 2024, la SHQ s'intéresse au quartier Montcalm. Le printemps Montcalm a pour triple objectif de permettre à la population de découvrir et redécouvrir l'histoire du quartier Montcalm, de mettre en valeur le patrimoine culturel et historique du quartier et de stimuler l'économie locale en s'alliant aux entreprises et commerçants locaux. Le lancement de printemps se tient donc ce dimanche 24 mars à 15h au Centre Lucien Borne avec le dévoilement de la programmation complète qui s'échelonnera jusqu'au 16 juin. C'est aujourd'hui que le projet de galerie virtuelle du Moulin des Jésuites sera officiellement mis en ligne et accessible à tous. Ce projet est le fruit d'une belle collaboration entre Géo360 et l'équipe du Moulin. Profitant des travaux de rénovation réalisés en 2023, les deux collaborateurs ont procédé à la numérisation de la bâtisse patrimoniale entièrement vidée. Le lieu se prête désormais au jeu de la diffusion culturelle virtuelle. La première exposition virtuelle est « Portrait carré Charlebourg cohabité » d'Éric Lebel, artiste photographe. Cette exposition porte un regard intimiste sur la nature de Charlebourg et ses êtres vivants qui cohabitent et partagent un même territoire. Pour voir l'exposition, on se dirige au www.moulindesjesuites.org/galerie-virtuelle. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Thank you. J'aspire à faire la connaissance d'hommes plus sages que ceux que l'humus de notre ville de Concorde a jamais pu produire. Des hommes dont les noms ne disent rien à personne ici, ou presque. Et quoi? Devrais-je entendre le nom de Platon et ne jamais lire ses livres? Comme si Platon vivait dans la même ville que moi et que jamais je ne le voyais. Ou bien comme s'il était mon voisin le plus proche et que jamais je ne l'entendais parler. Jamais je ne profitais de la sagesse de son verbe. Mais qu'en est-il réellement? Ces dialogues qui contiennent ce qu'il avait d'immortel en lui sont posés là, sur l'étagère toute proche, et pourtant je ne les lis jamais. Nous sommes sous-éduqués, illettrés, et vivons mesquinement, et à cet égard, j'avoue ne pas faire grande différence entre l'illettrisme de mes concitoyens, qui ne savent pas lire du tout, et l'illettrisme de ceux qui n'ont appris à lire que les livres pour enfants et faibles d'esprit. Nous devrions être aussi bons que les hommes les plus dignes de l'Antiquité, et pour cela, nous devons commencer par apprendre combien eux étaient bons.
Avec mon jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs. 22 sous pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout, j'en ai pour 8 dollars et 60 sous. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Pays, ce que j'ai trouvé m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheurs, trop de couteaux, trop d'objets et de fardeaux, trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis, trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité, trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, c'est le 22 mars, c'est la Journée internationale de l'eau. Si vous allez sur le site de l'organisme Eau Secours, on doit parler des différentes activités qui se font un peu partout là, concernant l'eau, la préservation de l'eau potable qui, j'ai appris dernièrement là, à la... Aux Amis de la Terre, on avait une belle présentation sur l'eau. Il y a une série de documentaires qui sont disponibles, mais faut, je me souviens plus c'est sur quelle plateforme. On nous disait, entre autres, le documentaire qu'il y a un paradoxe au Québec. C'est un des endroits au monde où on a le plus accès à l'eau potable. L'eau potable est très abondante per capita. Par contre, d'un autre côté, on a des endroits où il manque d'eau, où carrément, il y a certains villages à Montérégie, ils n'ont pas d'eau du tout et ils doivent faire venir l'eau. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au Québec, on est les plus grands consommateurs ou dans les plus grands consommateurs au monde d'eau potable. On a tendance à pas réaliser que c'est une denrée rare dans certains endroits. En tout cas, c'est une... Aujourd'hui, on devrait réfléchir à l'eau, la façon qu'on utilise l'eau. Le 20 mars, c'est-à-dire avant-hier, jeudi le 20 mars, c'était aussi la journée internationale du bonheur. Et il y a un organisme qui publie à chaque année un rapport qui s'appelle le World Happiness Report, qui est un organisme qui relève de l'ONU, je crois, et ils mettent en ligne leur rapport le jour, la Journée mondiale du bonheur, c'est-à-dire jeudi dernier. Alors, si vous allez vous écrivez dans Google le World Happiness Report, vous pouvez télécharger le rapport, qui est toujours, c'est des rapports qui sont assez volumineux, assez intéressants sur le bonheur, sur différents aspects de comment... disons, cultiver le bonheur dans les sociétés. Et c'est eux aussi qui publient l'espèce de tableau où tous les pays sont listés avec le niveau de bonheur qu'ils ont mesuré. Alors, les pays, des pays les plus heureux, entre guillemets, ou moins heureux. Et cette classification-là peut-être présenter certaines... nécessité de nuancer, mais c'est quand même intéressant, c'est que ce qu'on dit, on dit que la réussite des pays est souvent calculée en fonction du PIB, du produit intérieur brut, au niveau de, autrement dit, de la performance économique. Mais eux rentrent d'autres variables dans leur calcul, pas seulement la performance économique, puis là, ben, on a un portrait plus intéressant de la... En fin de compte, c'est relié à la qualité de vie. Alors, pour ceux que ça intéresse, le World Happiness Report est disponible en ligne présentement, le 2024. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais aussi, une nouvelle qui est sortie dernièrement, c'est que on parle souvent dans les cercles écologistes, où il y a des livres qui sont publiés là-dessus sur l'anthropocène, qui est une réalité, c'est l'anthropocène. Anthropos, c'est homme, puis scène, c'est époque. C'est qu'on s'inspire du langage géologique. En géologie, on parle d'ère géologique, d'époque géologique, puis il y en a plusieurs qui se terminent par scène. Et, il y avait un petit problème avec ça, c'est la réalité de l'anthropocène, elle est réelle. On est dans l'anthropocène, c'est-à-dire où l'homme a une action prédominante sur la biosphère mondiale. Mais au niveau géologique, il y a des spécialistes dans la science de la géologie qui sont les stratigraphes. C'est eux autres qui déterminent les différentes couches géologiques, qui leur donnent des noms. Et il y a toute une science liée à ça. Puis l'Association mondiale des spécialistes de la stratigraphie ont décidé de se réunir pour déterminer si oui ou non on pourrait dire que du point de vue géologique, nous sommes dans l'Anthropocène. Puis pour l'instant, les géologues, les experts de la science de la stratigraphie disent que on peut pas aller jusque-là de dire que du point de vue géologique, on est en Anthropocène. En tout cas, c'est un débat à suivre, mais on semblait vouloir dire qu'on allait associer les deux, là, mais pour l'instant, c'est plutôt un phénomène que je dirais planétaire, un phénomène écologique, un phénomène social, mais pour aller jusqu'à dire que c'est une ère géologique, on n'est pas rendu là. Dans les lectures maintenant, j'ai en kiosque, j'ai trouvé ces jours-ci une revue qui est vraiment un beau numéro, d'une revue scientifique. C'est la revue Science hors série. En fait, ça s'appelle La vie hors série. Revue Science. Trésor du vivant, s'émerveiller, collaborer, coexister. C'est très, vraiment beau numéro. Si vous vous intéressez à l'écologie, je vous recommande vraiment ce numéro-là qui parle, je dirais, des dernières découvertes au point de vue des pas seulement des sciences de la nature, mais ce qui est très important, notre rapport à la nature, ce dont on parle beaucoup à l'émission ici. Le réensauvagement, par exemple. Et il y a un article, entre autres, là, c'est juste un des articles que je vous lis ou que je vous parle. On a découvert, on pense, et c'est encore contesté, un nouveau règne. C'est que le règne de la vie, on peut dire, on dit qu'il y a trois grandes branches du vivant. Il y a les bactéries, les archées qui sont des micro-organismes, on pourrait dire à cellules simples, puis les eucaryotes qui sont les organismes à cellules complexes. Alors, on est plus familier avec les eucaryotes, évidemment, dont nous faisons partie, les animaux, les plantes, les algues, les champignons, etc. Ce qui est visible à l'œil nu, c'est les eucaryotes, les archées. C'est des micro-organismes, mais presque invisibles à l'œil nu, à peu près pas, puis les bactéries aussi. Mais il y a certains chercheurs qui ont étudié les virus ou certains virus, puis on pense que les virus ont émergé à part des trois principales branches. Donc, ils constitueraient un règne à eux seuls. Mais ça, c'est encore contesté, mais en tout cas, c'est juste pour donner une idée des articles qui sont dans ce numéro-là, de science, qui s'appelle le Trésor du vivant, que je vous recommande. Ensuite, dans Le Devoir, plusieurs petits articles qui ont retenu mon attention cette semaine. Évidemment, un autre article sur l'éclipse qui s'en vient le 8 avril. Et c'est un article dans Le Devoir d'aujourd'hui, 22 mars, page A7. Le titre de l'article, c'est « Faire peur au monde avec l'éclipse. Quelle tristesse quand la noirceur ne vient pas que du ciel, mais de notre propre gouvernement. » C'est un article de Pierre Chastenay. Pierre Chastenay, c'est un astronome, communicateur scientifique et professeur titulaire de didactique des sciences à l'UQAM. Puis, il parle que le gouvernement, un peu en retard, a mis en ligne des recommandations concernant l'éclipse, puis il trouve que c'est pas tout à fait bien fait. Alors, il dit, les recommandations du gouvernement concernant l'observation de l'éclipse de soleil du 8 avril prochain viennent finalement d'être mises en ligne. Notons d'abord le caractère inexplicablement tardif de cette annonce, qui arrive quelques semaines à peine avant l'événement. Pourtant, les autorités publiques ont été avisées depuis plus d'un an de l'arrivée du phénomène. Voilà qui laisse bien peu de temps aux décideurs pour planifier les activités autour de cet événement dans les centres de services scolaires, les garderies ou les résidences pour personnes âgées, entre autres. Notons également que sur le site du gouvernement, cette annonce est placée sous l'entête « Sécurité et situation d'urgence », rien de moins. On en rajoute une couche en situant l'information dans la section « Situation d'urgence, sinistre et risque naturel » et la sous-section « Quoi faire avant, pendant et après une situation d'urgence ou un sinistre ». Avouons que si l'objectif est d'inquiéter la population, et de faire peur au monde avec l'éclipse solaire, on ne pouvait pas faire mieux. Que trouve-t-on au juste sur cette page d'information? D'abord, une description plutôt adéquate du phénomène, quoique contrairement à ce qu'on y écrit, le soleil ne s'assombrit pas durant une éclipse, il est plutôt caché par la Lune, ce qui n'est pas la même chose. Après une mise en garde concernant les risques de brûlure à la rétine en cas d'observation non sécuritaire, on y présente des méthodes d'observation indirectes et on décrit les fameuses lunettes d'éclipse qui seules permettent une observation directe et sécuritaire de l'éclipse. À ce sujet, d'ailleurs, il aurait été utile, sur le plan de la santé publique, d'ajouter une mise en garde concernant des lunettes vendues en ligne et dont l'homologation ne peut pas être vérifiée. Caveat emptor, comme on dit, Mais ici, l'acheteur est malheureusement laissé à lui-même. Pour lui, pour le plus loin, on écrit, les personnes qui choisissent d'observer l'éclipse directement doivent protéger leurs yeux en tout temps. Cela est faux. Là où l'éclipse est totale, mais là, ici à Québec, je ne pense pas qu'elle va être totale, mais il y a des endroits au Québec qu'elle sera totale, il faut effectivement protéger ses yeux tant et aussi longtemps que le disque du soleil n'est pas complètement caché par la Lune. Phase partielle précédant et suivant l'éclipse totale. Mais durant l'éclipse totale, qui probablement va avoir lieu dans, je pense, à Montréal, si je ne me trompe pas, ou en tout cas Montérégie. Mais durant l'éclipse totale, lorsque le disque de la Lune masque complètement le Soleil, les lunettes d'éclipse ne vous seront d'aucune utilité. En réalité, vous ne verrez plus rien à travers ces lunettes. Elles sont tellement... Au travers de ces lunettes, tellement elles sont opaques. C'est au contraire le moment de profiter pleinement du spectacle extraordinaire que nous offre cette éclipse, apparition de la couronne solaire dont l'observation à l'œil nu est absolument sans danger, visibilité des planètes Vénus et Jupiter et d'étoiles dans le ciel obscurci, baisse des températures, augmentation de la vitesse du vent, etc. En tout cas, un article intéressant sur l'éclipse qui s'en vient dans le Devoir d'aujourd'hui. Un article de Pierre Chastenay, Devoir, page A7. Ensuite, un article, hier, on avait, aux Amis de la Terre, encore une fois, une rencontre de gens qui voudraient être s'impliquer aux Amis de la Terre en tant que bénévoles. Alors, on y présentait les différents comités qui sont actifs aux Amis de la Terre, dont le comité sur la décroissance, simplicité volontaire, le comité sur pour éviter le gaspillage alimentaire, sauve ta bouffe. Alors, il y a un article intéressant dans le Devoir de lundi, page B5, concernant justement, on pourrait dire, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le titre de l'article, c'est « Sauveur d'aliments, mais les bouchées doubles ». La jeune entreprise québécoise Food Hero, F-O-O-D-H-E-R-O, qui offre au rabais des aliments congelés avant leur préremption. C'est intéressant, c'est une application qui a été développée par cette entreprise-là. J'imagine que cette application est téléchargeable gratuitement. En tout cas, essentiellement, elle offre des rabais sur les aliments qui ont été congelés juste avant leur date d'expiration. Il y a un petit délai, puis... Si on ne sait pas que ces aliments-là sont là, ben on rate l'occasion d'une aubaine. Alors, c'est assez intéressant comme application. Elle dit, pour son 5e anniversaire, l'entreprise montréalaise Food Hero mettra les bouchées doubles en déployant vers la fin du printemps son application anti-gaspillage dans toutes les provinces canadiennes. Elle multipliera par 2 le nombre d'épiceries partenaires. C'est vraiment un très gros déploiement, soit environ 500 magasins en 2 mois. C'est donc beaucoup de travail d'équipe impliquée, de coordination, de marketing, explique le PDG Jonathan Defoy. Ce dernier se qualifie d'entrepreneur en série, puisque Food Hero, dont l'application a été lancée en 2019, est sa 4e entreprise au Québec. Le jalon de 500 détaillants participants des enseignes Métro, IGA, Rachel Berry et Marché Tradition est prêt d'être atteint. Sa popularité auprès des consommateurs est aussi en hausse avec 100 000 clients réguliers, 300 000 utilisateurs actifs. L'inflation qui pousse les gens à la recherche de rabais a été un vent de dos pour l'entreprise technologique. Son volume de vente a doublé entre 2021 et 2022, puis encore doublé en 2023. Le fonctionnement est simple. Les magasins repèrent les aliments qu'ils croient être incapables de vendre avant leur date de préemption. Par exemple, si on annonce un week-end ensoleillé de la Saint-Jean, les épiceries vont commander beaucoup de viande à barbecue. Mais si finalement... il pleut toute la fin de semaine, il va y avoir des aliments en surplus. Ces aliments, on trouve beaucoup de viande et de prêts à manger, sont alors majoritairement congelés afin que leur durée de vie soit prolongée. Ils sont ensuite liquidés sur l'application avec un rabais de 30 à 60 %. C'est la demande pour chaque produit qui dicte la hauteur de l'aubaine. Autrement dit, un produit risque d'être moins cher s'il n'a toujours pas été vendu après deux ou trois jours sur l'application. Le chemin exact pris par ces produits peut différer d'une enseigne à l'autre. Alors, c'est intéressant pour ceux que ça intéresse. En tout cas, c'est dans le Devoir de lundi, le 18 mars, page B5, ce sauveur d'aliments, mais les bouchées doubles. Autre article, c'est un article intéressant sur la décroissance dans le Devoir de samedi dernier. Article de Maïka Sondarji, décroître pour mieux vivre. Puis elle parle d'un article dans la revue Nature qui a été publié en 2023. C'est la revue Nature, c'est une revue scientifique prestigieuse. Et cet article-là, d'ailleurs, vous pouvez y avoir accès. Il est en open access. Alors, le titre de l'article, c'est « Social Policy in a Future of Degrowth ». C'est un article sur la décroissance dans la revue Nature. Alors, elle nous dit « Le monde tourne autour de l'idée que nous pouvons toujours croître, les entreprises, les nations, les économies, les individus. Le productivisme et le consumérisme liés à notre système économique ont dégradé l'habitabilité de notre planète » pour cette sacro-sainte croissance, sans pour autant faire disparaître les inégalités entre les humains. Nous devenons toujours plus les rouages de la grande machine à produire des marchandises. L'un des articles les plus lus de 2023 du célèbre magazine Nature portait sur le concept qui fait de plus en plus d'adeptes la décroissance. Il s'agit de l'idée selon laquelle les pays à revenus élevés pourraient prospérer et réduire les inégalités tout en utilisant moins d'énergie et en générant moins de déchets. Les partisans de la décroissance croient que l'augmentation perpétuelle de la richesse pécuniaire ne mène pas nécessairement à plus de bien-être collectif. Et si on pouvait être plus heureux sans rechercher la croissance économique à tout prix. L'article de Nature, écrit par un collectif de chercheurs en économie écologique à la fin de 2022, soutient qu'il serait non seulement souhaitable, mais faisable de ralentir. Il faudrait d'abord réduire les secteurs de l'économie les plus destructeurs, comme les combustibles fossiles, les jets privés ou la production massive de viande. Il faudrait aussi former de la main-d'œuvre durable dans des emplois verts, comme l'installation d'énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments ou la régénération des écosystèmes pour une transition des emplois d'un secteur à l'autre. Il ne suffirait pas de décroître l'économie, il faudrait aussi réduire le temps de travail en encourageant le temps de travail à temps partiel ou la semaine de 4 jours et abaisser l'âge de la retraite. En passant, nous, au comité Saint-Pierre-Bernard, ça fait des années qu'on en parle de ça, d'encourager la semaine de 4 jours. En matière de solidarité internationale, il faudrait annuler les dettes injustes ou illégales pour alléger le fardeau fiscal des pays du Sud global. Un gros programme. L'objectif n'est pas de mettre en récession nos économies, mais de sortir volontairement et collectivement de la course à la décroissance économique pour tenter de bâtir des sociétés post-croissance qui seraient plus soutenables, plus justes et plus démocratiques. Pour Yves-Marie Abraham, qui mène des recherches sur ce thème à HEC Montréal, la feuille de route à suivre pour sortir de cette course folle tient en 3 points. Produire moins, partager plus, décider ensemble. Alors, article intéressant que je vous recommande dans le Devoir de samedi, le 16 mars dernier. Finalement, dans le Devoir, encore dans le Devoir d'aujourd'hui, dans la chronique de José Legault, Retrouver le temps premier, elle nous parle de roman de Danny Laferrière, un certain art de vivre. Elle parle de ralentir, vivre, en tout cas, vivre moins la course folle, comme on en parle de la croissance économique. Alors, un certain art de vivre, apprendre à ne rien faire est un art comme l'art ménager, les arts décoratifs, tous sous-estimés. Le dernier, Laferrière, Danny Laferrière, ne s'intitule pas « Un certain art de vivre pour rien ». Et il commence par l'art de vivre à l'horizontale. J'ai un faible pour l'horizontale. Elle n'a pas de prix. Si vous êtes un disciple de Pierre-Yves McSween, vous allez trouver que c'est un mauvais rapport quantité-prix. Le tiers du livre de 135 pages est composé de blanc, de silence. C'est beaucoup d'arbres qui se taisent. Deux, trois phrases par page, comme de la poésie, mais en prose, de l'espace pour se reposer les yeux. J'ai lu à l'envers puis à l'endroit, c'est pareil. Ça se lit n'importe comment. C'est un rapport au temps et au rendement qui tient à la fois du rebelle caribéen, de l'enfance qui jonce le sol et de la vieillesse qu'on entrevoit déjà par la fenêtre. Et on ne sait toujours pas qui est Danny Laferrière. J'ai toujours l'impression qu'il se paye un peu notre gueule. Là, elle cite un extrait du livre. « Tout va toujours trop vite. Même si j'ai tout mon temps, d'ailleurs, je n'ai que ça. Et c'est quand même, on n'a rien à faire, que le temps est précieux. Là où Danny Laferrière nous apprend à vivre, c'est en disant non à presque tout. J'épouse cette sagesse doucement, elle me réjouit. Aujourd'hui, ça c'est Danny Laferrière qu'elle cite. Aujourd'hui, à 70 ans, je réponds non à tout. Il m'a fallu près d'un demi-siècle pour trouver cette force de caractère que j'avais au début, la force du non, se tenir debout derrière son refus, presque rien qui mérite un oui. Trois ou quatre choses au cours d'une vie, sinon, faut répondre non sans aucune hésitation. Juste pour quelques phrases, un livre vaut la peine d'être lu, un écrivain est pur, et au photographe, les bananes et les tomates sont de trop longs sur la couverture, le vert et le rouge suffisaient. Le mieux est l'ennemi du presque rien. Ça, c'est Madame Blanchette. Alors, c'est la chronique de José Blanchet là, qui parle d'un certain art de vivre, du ralentissement. C'est une belle chronique dans le devoir d'aujourd'hui, encore une fois. Alors, on prend une pause musicale, puis ensuite, je reprends avec la puissance des liens.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world. It's a new dawn,
C'était Nina Simone, Feeling Good. Et c'était un clin d'œil aussi. Pourquoi je fais passer cette pièce de musique-là? C'est que cette pièce de musique-là fait partie de la trame musicale du film qui est toujours en salle, là, Les Jours Parfaits, que je vous recommande, j'en avais parlé aux dernières émissions, que je retournais voir une deuxième fois. Et c'est un beau film sur la simplicité volontaire. Et la trame sonore est vraiment bonne aussi. Mais c'est ça, c'est un film qui fait du bien. Tu parles beaucoup aussi de la culture japonaise qui peut être très zen. Et aussi, il y a comme deux aspects à la culture japonaise. On voit que aussi c'est une culture qui est très axée sur la performance, mais dans le film, c'est plutôt le contraire qu'on voit. Le personnage principal est plutôt axé sur le côté zen, le côté moment présent, le beau côté, je trouve, de la culture japonaise. En tout cas, c'est un film que je vous recommande vraiment, ce qui s'appelle Les Jours Parfaits. Alors, on va poursuivre avec notre série que j'ai commencée sur le livre La puissance des liens. En simplicité volontaire, on dit plus de liens, moins de biens. Alors, en simplicité volontaire, on dit que une fois qu'on a atteint un certain confort matériel, un certain seuil de confort, c'est notre bien-être, on le trouve plus avec les liens qu'on tisse avec les gens, avec la vie, avec notre monde. Et c'est un beau livre qui parle de ça, La puissance des liens, c'est un livre avec plusieurs auteurs, plusieurs collaborateurs. Il y a Christophe André qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on connaît moins. Il y a Boris Cyrulnik, Rebecca Shanklin et Mathieu Ricard, qu'on connaît très bien, qui est le moine bouddhiste, traducteur du Dalai Lama. Et aujourd'hui, on poursuit. On avait commencé la semaine dernière. On poursuit avec des extraits de la section, justement, de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, la section, entre autres, que je vais vous lire, une partie, en tout cas, c'est notre rapport aux animaux. Mathieu Ricard a écrit toute une brique sur nos rapports avec les animaux. Puis, comme je disais, on va probablement aborder cette thématique-là là, dans les semaines qui viennent, notamment la semaine prochaine, parce que on va avoir comme invité l'anthropologue algonquin, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr, algonquin. Là. En tout cas, c'est une Première Nation. Et Nicole Obam-Sawin, et qui va nous parler justement là, comment les Premières Nations, la philosophie des Premières Nations, entre autres le lien que les Premières Nations, les Autochtones, ont à la nature, qui est différent d'une autre. Et, on parle beaucoup de la philosophie grecque. Si j'avais peut-être des choses à reprocher ou peut-être que j'ai mal compris, il me semble que ça manque, le lien avec la nature, les animaux. En tout cas, ça va être intéressant pour la semaine prochaine, Mme Obam-Sawin. Bon, alors, pour revenir avec la puissance des liens, je vous lis quelques extraits de Mathieu Ricard. Alors, lorsque, sous l'autorité de l'expérimentateur, nous sommes capables de manipuler un drone, d'observer une population à distance et d'envoyer une bombe, nous déshumanisons les humains, alors perçus comme des êtres lointains et abstraits. De même, les oppresseurs en tout genre déshumanisent ceux qu'ils veulent exterminer en les considérant comme inférieurs. Les dictateurs parlent de vermine, de peste, de cloporte pour justifier leur massacre des masses. Nous faisons de la même chose malgré nous si nous déshumanisons les humains. Nous réifions les animaux. Les humains deviennent des matricules, les animaux des machines à fabriquer des saucisses. On estime aujourd'hui que 110 milliards d'Homo sapiens ont vécu sur Terre. Nous étions encore quelques millions il y a 15 000 ans. Ah, c'est le nombre d'animaux que l'on tue dans le monde tous les 2 mois pour nos prétendus besoins, comme si de rien n'était. Ce fossé dans notre éthique est absolument invraisemblable. Nous sommes tout, ils ne sont rien. L'instrumentalisation de la nature est une calamité aussi. Elle serait entièrement à notre disposition, les planètes y comprises, comme une commodité. Il s'agit là encore d'une forme d'exacerbation d'un suprémacisme humain qui ne tient pas compte de notre profonde interdépendance avec la nature. L'idée que l'homme serait extrait de la nature est aussi absurde que d'affirmer que nous pourrions nous extraire de notre propre corps. Qui plus est, chaque espèce a développé les qualités particulières qui lui permettent de survivre. Si les êtres humains excellent par leurs facultés intellectuelles, nombre de facultés animales surpassent largement celles des hommes. Les chauves-souris se dirigent dans le noir à l'aide d'un sonar extrêmement sophistiqué. Les saumons peuvent, en se fiant à leur seul odorat, retrouver la rivière natale après une très longue migration dans l'océan. Les oiseaux migrateurs traversent la planète en s'orientant par rapport aux étoiles ou à la polarisation de la lumière, autant d'exploits dont nous sommes bien incapables. Je poursuis un peu plus loin avec un autre, encore une fois, extrait là, de la section que Mathieu Ricard a écrit sur, dans le livre « La puissance des liens ». Pensez aux générations futures. Certains philosophes affirment que les générations futures ne peuvent pas avoir de droits car elles n'existent pas encore. Cette position relève d'une conception très individualiste du droit qui exige que pour avoir des droits, une personne doit exister, être consciente de tes droits et faire preuve de réciprocité en respectant à son tour les droits d'autrui, ce qui exclut de fait les générations à venir et les autres espèces. On peut répondre à cela que cet argument vaut pour les droits actifs, à savoir les droits de faire telle ou telle chose, mais que les droits passifs, notamment le droit de ne pas être privé de la possibilité de vivre en bonne santé, sont par exemple parfaitement applicables aux personnes futures et aux autres espèces. Les générations futures vont exister pour sûr, et comme Greta Thunberg le disait nous les trahissons. Plus tard, elles diront « Vous saviez et vous n'aviez rien fait. » Il est certain que les générations futures vont souffrir de nos actions ou de nos inactions selon leur point de vue. On ne dénie pas des droits à un nouveau-né, à un jeune enfant ou à une personne handicapée dans la mesure où ces personnes sont des êtres humains et que même si elles ne peuvent pas s'exprimer ou faire acte de réciprocité, elles appartiennent à notre famille humaine. Mais nous n'accordons pourtant pas les mêmes droits aux générations futures et aux autres espèces. La notion de droit de l'humanité que Catherine Lebris a pris soin d'exposer, ça c'est dans le même livre, un peu plus haut, vise précisément à étendre la notion de droit de l'être humain aux générations futures. Mon marxiste favori, Groucho Marx, disait la même chose. Pourquoi me préoccuper des générations futures? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? J'ai entendu le richissime Steve Forbes dire la même chose sérieusement, lui, sur Fox News, où il a déclaré à propos des conséquences catastrophiques que pourrait entraîner la montée du niveau des océans. Je trouve absurde de changer nos comportements aujourd'hui pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. En gros, après moi le déluge. Cette personne n'a peut-être pas d'enfants ni de petits-enfants. Il nous cite un extrait concernant Bouddha. Dans l'un de ses sermons, le Bouddha a décrit la réalité comme un entrelac de perles. Dans chacune des perles, toutes les autres sont reflétées, ainsi que le palais dont elles ornent la façade et l'univers tout entier. En d'autres termes, dans chaque élément de la réalité, tous les autres sont présents. Ce n'est qu'une image, mais elle illustre bien la notion d'interdépendance, selon laquelle il ne peut exister dans l'univers une seule entité totalement dissociée de l'ensemble. L'individualisme ne mène nulle part. La vie humaine, en tant que réalité radicale, n'est que le vide de chaque personne. Et ma vie, c'est essentiellement une solitude radicale. Cette citation du philosophe espagnol José Ortega y Gasset est glaçante. Nous sommes très loin de l'interdépendance. L'hyper-individualiste croit se protéger en se retranchant dans la bulle de l'égocentrisme. Mais en vérité, il devient extrêmement vulnérable, car le monde entier surgit soit en ennemi potentiel, soit en instrument pour promouvoir ses intérêts personnels. Le monde devient entièrement polarisé entre ce moi rétréci qui s'imagine que l'univers pourrait être un catalogue disponible à tous ses désirs et ses caprices, ou bien qu'il le perçoit comme une menace. Cette vision des choses est intenable, non seulement parce que moi, du matin au soir, rend la vie misérable à soi-même et à autrui, mais aussi parce que c'est une vision qui se trouve en porte-à-faux avec la réalité. Nous ne sommes pas des entités autonomes semblables à des boules de billard qui s'entrechoquent de temps en temps. Nous sommes fondamentalement interdépendant. Un ami, Greg Norris à Harvard, qui étudie la filiation des objets que nous utilisons, m'a montré qu'une feuille de papier A4 en Europe impliquait 25 nations. On ne s'en rend pas compte, mais l'abidon de Tchécoslovaquie, le bois de Finlande, le transporteur est hollandais, le fabricant italien, cela démontre notre dépendance les uns vis-à-vis des autres et prouve que chercher à s'isoler dans un individualisme étroit nous coupe de la réalité. L'individualisme est par nature dysfonctionnel, ce qui, en fin de compte, se traduit par la souffrance. À l'inverse, la reconnaissance de l'interdépendance qui nous relie à tous les êtres humains et non humains est fonctionnelle, car elle est en adéquation avec la nature même des choses. Cette reconnaissance favorise l'altruisme qui vise à l'accomplissement du bien autrui et la compassion qui vise à remédier à la souffrance d'autrui et à ses causes. Se trouve que, de surcroît, en bonus, pourrait-on dire, la bienveillance est le plus gratifiant des états mentaux. En tout cas, c'est des extraits, là, on va prendre une pause musicale, c'est des extraits du très beau livre, La puissance des liens, que, comme je vous disais, en simplicité volontaire, c'est les liens qu'on cultive une fois qu'on a une sécurité matérielle. Alors, on prend une pause musicale, puis on va revenir avec une autre bel ouvrage intéressant, fascinant, le Toro Yogi des Bois. Désolé pour les difficultés, mais on s'est trop usé, alors on va passer une autre pièce musicale à la place.
Je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pur. Puis j'attellerai les chevaux du vent, puis nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte, un autre descend, un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de même pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps.
Alors, nous sommes de retour. Désolé pour l'incident technique. Mon CD de Julos Bocan, je l'ai trop écouté. Et il est inutilisable, on dirait bien. Et ça me fait penser, dernièrement, il y avait un documentaire sur la bibliothèque d'Umberto Eco, qui est décédé il y a 2-3 ans. Et qui est une bibliothèque fabuleuse avec des livres qui datent de 500 ans. Puis il disait que le support électronique n'est pas fiable, qu'après quelques temps, il se dégrade. Puis il dit, moi, j'ai des livres de 500 ans. Je suis pas certain que les supports électroniques d'aujourd'hui seront encore en bonne condition dans 500 ans. Une réflexion intéressante, je trouve. En tout cas, c'est sûr que de la musique, ça se conserve pas sur un support papier, mais quand même, réflexion intéressante sur les livres, le papier, les supports donc où on enregistre nos vies, nos choses importantes, comme Platon, dont je parlais en début d'émission, que Thoreau citait. Ces trésors-là peuvent être préservés sur papier pendant des millénaires, mais on le voit avec mon CD qu'il y a quelques années déjà, c'est dégradé. En tout cas, petite parenthèse sur les supports. Alors, Voilà, je poursuis avec une lecture que j'ai commencée il y a quelques semaines. C'est un, ça aussi, c'est un très beau livre sur taureaux. On parle beaucoup de taureaux à l'émission. Et ici, c'est ce livre-là de Colette Poggi, Taureau, Yogi des boîtes. Madame Poggi, c'est une spécialiste de la philosophie indienne. Puis elle fait beaucoup de liens entre taureau et la philosophie indienne. D'ailleurs, Taureau faisait partie d'un groupe dans les premiers Nord-Américains à s'intéresser à la philosophie indienne. Alors, je vous lis quelques extraits de la section sur la sobriété. La vie est un trésor fragile. Sous toutes ses formes, elle nous émerveille. Plus elle nous apparaît sans apprêt, dans son authenticité, plus elle trouve son accomplissement et plus elle est protégée. Taureau milite pour un retour à une vie simple, à la frugalité qui, pour lui, est le creuset de la richesse et de l'harmonie intérieure. Cette pensée est devenue très influente aujourd'hui, d'autant plus importante dans notre existence déséquilibrée et dans notre société de surconsommation. Déjà au 19e siècle, Taureau réfléchit à la place de l'humain au sein de la nature, à un rapport écologique au monde, à une forme de décroissance, même s'il n'employait pas ces mots. D'ailleurs, il incarne cette vie simple, vêtue d'une étoffe rude, hirsute, peut-être un peu débraillée, complice de la lune et des bêtes. Il mène une vie d'élan errant dans les bois. Je rêve parfois d'une maison plus grande et plus peuplée, bâtie dans un âge d'or et faite de matériaux solides et sans fioritures inutiles, et qui ne consistera qu'en une seule pièce, vaste salle primitive, rude et solide, où le voyageur, pour fatigué, peut se laver, manger, converser, dormir, sans avoir besoin d'aller plus loin. Ce jour-là, un asile qu'on serait content de trouver par une nuit de tempête. Ici, un peu plus loin, elle cite, Mme Poggi, elle cite Walden. À quoi bon accumuler des biens quand on est sûr de les voir filer? On doit vivre en soi, ne dépendre que de soi, et toujours à pied d'œuvre et prêt à repartir, ne pas s'encombrer de multiples affaires. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais poursuivre encore la semaine prochaine, peut-être un petit extrait de Taureau Yogi des Bois, mais comme je vous disais, la semaine prochaine, c'est surtout l'entrevue avec Madame Nicole Obam-Sawin sur la philosophie amérindienne. Alors, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Québec réveille, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec réveille, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour. Ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 22 mars 2024. Le Canada devrait interdire le marketing portant sur la malbouffe partout où les enfants peuvent y être exposés.